La nécessité de fixer sur la plaque photographique l'image du constat ne s'impose pas seulement pour corriger les oublis et les interprétations erronées, mais aussi pour réparer un phénomène d'ordre purement psychologique. En effet, il est reconnu depuis longtemps que nous ne voyons que ce que nous voulons voir. L'appareil photographique est l'enregistreur qui voit tout et qui enregistre tout.
Ces mots sont ceux de Rodolphe Archibald Reiss, extrait de son livre « La photographie judiciaire » écrit en 1903. Ce sont 8 photos judiciaires qui nous montrent avec une infinité de détails l'intérieur des logements du début du XXe siècle en Suisse romande qui sont le point d'entrée d'une véritable investigation à faire dans la salle Enquête sur les intérieurs, dans l'exposition permanente Décors, chef-d'œuvre des collections au château de Prangin, Musée national suisse. Jamais les mots du criminologue Rodolphe Archibald Reiss n'ont résonné aussi juste. Ces 8 photos, issues de la collection Reiss Police Scientifique de Lausanne, prises par Reiss lui-même et ses successeurs, ainsi qu'une constellation d'autres clichés épinglés sur un grand mur d'enquête, nous invitent à prendre la loupe et à mener nos propres recherches. Il s'agit ici de comprendre, de faire des liens et de découvrir la vie que menaient les romandes et les romans au début du XXe siècle. L'exode rural, l'arrivée massive dans les villes, la lutte contre les logements insalubres, la grande période de l'hygiénisme, mais aussi la question de la source, de la transmission, du témoignage. Autant de pelotes sont à dérouler au sein de cette salle d'exposition et dans ce podcast du Château de Prangin, Musée national suisse. Soyez les bienvenus, car autant vous prévenir tout de suite, nous aussi, nous partons mener une enquête digne de ce nom. Parlons tout d'abord de ces photos judiciaires trônant sur ce grand mur d'enquête. On le sait, elles ont été prises par des policiers. Mais cela à une époque où la photo n'était pas encore utilisée comme elle l'est aujourd'hui. Ce sont des pionniers, ces hommes, des convaincus, qui ont amené ce médium jusque dans leurs propres enquêtes de police afin de voir ce qu'on ne voit pas au premier coup d'œil quand on arrive sur une scène de crime. Pour parler de ces enquêtes d'hier, quoi de mieux qu'un spécialiste d'aujourd'hui ? En voici un.
Je suis Christophe Champeau, je suis directeur de l'école des sciences criminelles de l'Université de Lausanne.
Commençons par le commencement. Dans la salle enquête sur les intérieurs, les commissaires de l'exposition, décors, chef-d'œuvre des collections, ont choisi de nous montrer les photos sur un mur d'enquête comme on en voit dans les films ou dans les séries. Est-ce que ce genre de dispositif est réellement utilisé, Christophe Champeau ?
Oui, ce genre de dispositif est vrai, tant sous l'angle physique, de coller des images sur un mur pour faire des relations, par exemple, entre des traces, que sous l'angle numérique, parce qu'on peut faire les mêmes relations sur un logiciel informatique pour montrer des liens entre des entités, et c'est quelque chose qu'on utilise journellement.
Qui était Rodolphe Archibald Reiss ?
Reiss vient à Lausanne de l'Allemagne pour faire des études de chimie, qu'il fera à la place du château 3. Des études de chimie qui sont consacrées à des émulsions photographiques. Puis il va assez rapidement se rendre compte que son activité photographique le passionne et va mettre ses services de photographe au service de l'université. Il va devenir chef des travaux photographiques de l'Université de Lausanne. En parallèle, il va visiter Alphonse Bertillon à Paris. C'est auprès de Bertillon qu'il va réaliser à quel point la photographie peut être un moyen important pour aider l'enquête et pour figer une scène de crime, pour documenter les traces, pour pouvoir avoir quelque chose qui est indépendant de l'observateur, de manière à pouvoir constituer un dossier qui peut être présenté à un magistrat, pour pouvoir faire état d'une situation telle qu'elle a été découverte sur les lieux, de pouvoir identifier les gens par la photographie. Et donc Reiss va mettre en place un cours de photographie judiciaire à l'université qui, en 1909, amènera à la création du diplôme de police scientifique, qui est tel qu'on le connaît aujourd'hui sur un autre nom, au sein de l'école des sciences criminelles. Et Reiss va non seulement développer cette photographie judiciaire à des fins académiques, mais va également mettre à disposition ses compétences de magistrats et autres autorités qui requièrent ses services pour pouvoir faire des enquêtes. Et c'est dans ce cadre-là que Reiss va sortir avec son cocher sur des lieux pour amener cette technique photographique à la mise à disposition de la société civile, à un moment où c'est des techniques de laboratoire, donc à un moment où la police ne disposait pas de ces moyens-là. Donc Reiss, graduellement, va faire une transition de technologie depuis le laboratoire vers la police. Et puis, au fil des années, évidemment, les services de police se sont équipés et ont monté en compétences pour pouvoir l'exploiter eux-mêmes.
Est-ce que, dans la même période, d'autres criminalistes vont se servir autant de la photo?
Alors oui, la photographie est en plein boom dans la période de Reiss. Le pionnier de l'usage de la photographie à large échelle est sans aucun doute Alphonse Bertillon à Paris. Reiss va ramener ses techniques photographiques à Lausanne. La différence probablement, c'est que Reiss, avec ses connaissances de photographie et de techniques photographie, va déployer des méthodes de visualisation de l'invisible qu'on ne disposait pas à l'époque, alors que Bertillon était surtout dans la documentation plutôt que dans la prise de photographie technique. Mais vous allez voir l'émergence de l'usage de cette photographie dans tous les pays qui nous entourent très rapidement.
Est-ce qu'il va innover aussi? Est-ce qu'il va apporter des techniques particulières?
Il va travailler sur l'éclairage, d'une part, donc le choix de la longueur d'onde avec laquelle il va regarder un objet, et puis le choix de la sensibilité de l'émulsion, donc de l'émulsion qui va être capable d'être plus sensible dans certaines zones du spectre électromagnétique pour enregistrer des choses que votre œil ne voit pas. Aujourd'hui, vous faites ça très facilement avec une caméra infrarouge. Reiss le fait avec une plaque photographique argentique qui développe non seulement en termes de photographie, mais il a fait lui-même l'émulsion pour pouvoir atteindre l'objectif qui s'est fixé.
Est-ce que vous pouvez nous donner un rapide historique de la collection Reiss Police Scientifique et d'où vient cette collection et comment a-t-elle été conservée?
Alors, dès la fondation de l'Institut de Police Scientifique, et même avant, Reiss a commencé à faire des expertises au service de la société, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. La majorité de ses mandats implique une documentation photographique. Elle peut être d'une scène lorsqu'il devait sortir en extérieur, mais ça peut être aussi d'éléments qu'il a reçus comme expertise ici à Lausanne, comme des billets de banque, comme des documents, des faux en écriture, qui sont documentés par ses soins pour pouvoir montrer les éléments de falsification potentielle. Toutes ces images, Reiss va les documenter, va les cataloguer. D'ailleurs, il a un catalogue très impressionnant qui lie l'ensemble des numéros de dossier avec l'ensemble des images associées à ce dossier et puis le texte de l'expertise que Reiss a rendue. Puis, je parle de Reiss, mais évidemment, ses successeurs, que ce soit Bischoff ou Mathier qui ont suivi, ont pratiqué exactement de la même manière. Donc, au fil des années, au fil d'un siècle, l'ensemble de ces images ont été stockées dans nos caves. Non pas sous la forme de clichés de tirage positif des photographies, mais des plaques photographiques en verre. Ces plaques ont été conservées sans mesure particulière. Et en fait, c'est assez miraculeux qu'elles soient arrivées jusqu'à nous dans l'excellent état dans lequel elles sont. Mais oui, à la faveur d'une cave bien protégée et puis de mouvements assez modestes de ces plaques, même si elles étaient conservées les unes sur les autres, ces images sont arrivées jusqu'à nous. L'université a obtenu des fonds par Memoriav pour pouvoir digitaliser l'ensemble de ce corpus et puis surtout pour pouvoir le préserver dans de meilleures conditions que notre cave. Et donc, ces plaques ont été reconditionnées, scannées, digitalisées et mises à disposition du large public par une base de données qui est administrée par l'Université de Lausanne et qui met l'ensemble des photographies à disposition.
Pour cette enquête, je suis accompagnée d'un autre détective, Mathieu Perry, collaborateur scientifique, co-commissaire de l'exposition Décors, chef-d'œuvre des collections au château de Prangin, musée national suisse.
Nous, on utilise ces photos de Reiss et de ses successeurs parce qu'elles ont aussi un intérêt dans leur représentativité. On n'a pas seulement des personnes issues vraiment des élites bourgeoises qui sont photographiées et surtout qui photographient leur intérieur. Est-ce que vous, de ce point de vue-là, sur la question de la représentativité de certaines catégories de population dans le corpus en fait forensique, est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose?
Alors c'est vrai que Reiss, par les aléas finalement des interventions, peut aller dans des endroits où le photographe normalement ne rentre pas, parce que le photographe, s'il est convoqué quelque part officiellement, il va être convoqué par des gens qui ont les moyens de faire une photographie à une telle époque, donc plutôt les intérieurs bourgeois que les intérieurs d'une population beaucoup plus pauvre. par les effets des enquêtes auxquelles il est amené à intervenir, pour faire de une levée de corps, pour faire une documentation de vol, eh bien Rice est appelé dans tous les intérieurs possibles, en grande majorité malheureusement, parce qu'il y a une connexion évidente, la victimisation des pauvres est plus importante que la victimisation des riches et des bourgeois, eh bien il intervient sur des environnements qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc, au travers de ces images, ça nous donne une porte d'entrée sur les conditions de vie d'une population déshéritée, souvent pauvre, qu'on n'aurait jamais documenté dans d'autres circonstances, parce que c'est pas ces populations-là qui font appel à un photographe pour venir prendre la photo de famille de fin d'année. Mais Rice a toujours utilisé la photographie pour documenter les classes laborieuses, les prostituées. Il y a beaucoup de photographies dans son corpus de populations qui sont les populations oubliées de l'avancée technologique de l'époque. Et il trouvait que la photographie était un bon moyen aussi de documenter ces personnes. Il avait aussi la volonté, de, par la documentation des gens, hein, de marquer le fait qu'il n'y a pas une gueule de criminel.
Retour au musée à Prangin. Nous voici devant le mur d'enquête dans la salle enquête sur les intérieurs avec Mathieu Perry, je vous le rappelle, collaborateur scientifique, co-commissaire de l'exposition Décor, chef-d'œuvre des collections, et c'est lui qui a imaginé cette salle d'exposition. Explorons donc avec lui les enjeux de la documentation des intérieurs.
Donc c'est une citation de Rice en fait qu'il a donnée lors d'une allocution. C'était un congrès sur la photographie documentaire en 1906. Alors il dit la chose suivante. La photographie est d'une aide puissante aux magistrats enquêteurs de police. Mais que deviennent ces photographies une fois l'enquête et le procès finis ? La plupart de ces épreuves restent aux greffes perdues dans des dossiers poussiéreux et n'en sortent plus jamais. Alors parmi les fameuses épreuves qui sont restées aux greffes perdues et dans les dossiers poussiéreux dont parlait Rice, des photographies, hein. On en a choisi 8. On a ressorti, on a exhumé 8 photos de Rice, mais pas seulement, hein, aussi de ses successeurs, notamment Mark Bischoff, qui prend sa suite en 1920. Et qu'est-ce qu'on voit ? On est face à un tableau d'enquête. Ce tableau d'enquête, hein, c'est un tableau tel qu'on le voit à la télé, où il y a des enquêteurs ou des enquêtrices qui vont mettre des pièces à conviction au mur, qui vont créer des liens pour réaliser une enquête. Et l'enquête qu'on réalise, nous, c'est une enquête sur 8 photos qu'on a choisies. Ces 8 photographies, elles nous plongent vraiment dans les intérieurs vaudois du premier tiers du XXe siècle et on y voit des conditions de vie très différentes. On y voit déjà des logements urbains versus des logements à la campagne. On a par exemple une ferme à Puydoux, au lieu dit La Nachona, qui est à côté du lac de Bray. On est en 1907, c'est une photographie qui a été prise par Rice. Et en vis-à-vis, juste à côté, on a un logement au centre-ville de Lausanne, en 1916, à l'avenue Tissot. Et ici, on est dans une petite pièce au centre-ville, dans un immeuble relativement ancien. On a une pièce qui est très exiguë, où le lit de la personne est entouré d'une autre série de mobilier. On a un canapé, on a une table, on a une commode qui est tellement grande, en fait, qu'elle empiète sur les deux fenêtres. Mais on a aussi des logements beaucoup plus bourgeois. On a, à côté de cette image de l'avenue Tissot en 1916, on reste à Lausanne et puis on a un appartement, cette fois-ci luxueux. On est en 1932 dans un immeuble qui vient d'être construit et on est dans un 7 pièces et demi. Alors là, pour le coup, on ne peut pas parler de logement modeste, hein, au contraire. Dans un immeuble donc qui bénéficie aussi du confort, on voit un radiateur et on voit une salle de bain aussi en enfilade qui donne directement sur la chambre. Donc deux éléments de confort, le radiateur et donc le chauffage central et aussi forcément l'accès direct à l'eau courante, hein, une salle de bain pour se laver, un équipement qui nous paraît tellement naturel aujourd'hui mais qui est le seul en fait visible sur ces autres photographies où par contraste la plupart des gens dans leur chambre ont un petit nécessaire de toilette pour se laver, donc une petite bassine, un broc dans lequel ils mettent l'eau, ce qui indique que probablement leur logement ne bénéficie pas de sanitaire.
Pourquoi avoir choisi ces éléments ? Le chauffage, l'éclairage, il y a le mobilier, la décoration. Les quatre grands sujets d'enquête sur lesquels vous attirez notre attention, ce sont ceux-ci. Pourquoi les avoir choisis précisément ?
Tout d'abord parce que ce sont des éléments extrêmement importants. Par exemple, pour revenir au chauffage et à l'éclairage, les intérieurs, évidemment, c'est du mobilier, c'est de la décoration, mais c'est aussi ces éléments techniques. Et ces éléments techniques, ces installations, qu'on oublie parfois au quotidien. Ils ont un rôle très très important dans le confort, dans la manière vraiment dont on peut habiter son intérieur. Et ce qui nous intéressait avec ces photographies d'enquête, c'était de montrer à quel point aussi dans ces 30 premières années du début du XXe siècle, à quel point il y a eu des changements radicaux qui ont été opérés.
Oui, c'est aussi pour montrer la différence entre logement modeste et logement de personnes qui sont plus fortunées.
Alors complètement, et je pense que c'est là le très grand intérêt de ces photographies d'enquête. Ce sont des documents exceptionnels. Qu'est-ce qu'elles nous permettent aujourd'hui de faire, ces photos ? Elles permettent de voir toute une série d'intérieurs qui sont autrement extrêmement difficiles à approcher en photographie dans le premier tiers du XXe siècle. Ces intérieurs, ce sont les intérieurs des personnes plus modestes. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les enquêtes de police, elles ont pour point commun, justement, il y a un caractère aléatoire, elles ont pour point commun de s'intéresser à la résolution d'un délit, d'un crime, etc. Donc les photographies qu'on utilise, qui sont ces photographies d'état des lieux, eh bien, elles vont aussi documenter des intérieurs qui autrement sont très peu représentés. C'est-à-dire que les personnes qui ont accès à la photographie, bah, ce sera encore majoritairement des gens issus des classes les plus aisées, des bourgeois, etc., qui vont utiliser régulièrement la photographie. Et ça, on en montre aussi dans l'exposition, des exemples qu'on a dans les collections du Musée National. On a beaucoup, beaucoup de photos de logements bourgeois à cette période, déjà au XIXe siècle. Mais par contre, des logements beaucoup plus modestes, voire même des logements de personnes dans des situations de grande pauvreté, eh bien, les témoignages photographiques sont très, très rares. Et donc, effectivement, ces sources, ces photographies d'enquête de police, elles permettent de contourner, d'une certaine manière, ce problème. Et en plus, il faut dire que c'est des photographies de très, très grande qualité, puisque le but, vraiment, c'était de documenter de la meilleure des manières possibles la scène, d'avoir le plus de détails, puisque l'état des lieux vise justement, ensuite, pour les enquêteurs, à pouvoir revenir sur ces détails. Donc, c'est des photos qui permettent vraiment de très, très bien voir les intérieurs, au contraire de d'autres documents qu'on trouve parfois, qui sont potentiellement un peu plus partiels ou de moins bonne qualité. Il ne faut jamais oublier que derrière ces photographies, il y a des événements potentiellement très très violents qui se sont déroulés. Eh bien, le critère aussi, c'était que voilà, il n'y ait pas d'images choquantes, qu'il n'y ait pas de corps, voilà, qu'on ne soit pas face à des images qui puissent très frontalement heurter la sensibilité de certaines personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de l'enquête que nous et les visiteurs et visiteuses font dans la salle, il y a un autre niveau d'enquête. Ces enquêtes, elles se concentrent sur les conditions d'habitation, en fait. C'est des enquêtes sur les conditions de logement réalisées à la fin du 19e siècle. Et c'est un aspect, en fait, de l'histoire des intérieurs qu'on développe aussi dans cette salle. Entre la seconde moitié du 19e siècle et les années 1930, eh bien, la Suisse va connaître des bouleversements majeurs en ce qui concerne la répartition de la population et même le nombre de personnes qui vivent en Suisse. Vers 1900, la majorité de la population vit désormais en ville, ce qui va créer toute une série de tensions puisqu'on a un exode rural, donc un départ des personnes de la campagne vers les villes, et on aura une crise du logement aussi dans ce premier tiers du XXe siècle, très forte, qui va traverser vraiment la période qui existe déjà avant. Les conditions de logement de la population, surtout des populations plus précaires, elles vont être très difficiles. Pourquoi ? Parce que les gens vont s'entasser dans des centres-villes. On a un exode rural qui va amener justement beaucoup de personnes à vivre en ville. Et les plus précaires vont trouver des logements là où ils peuvent. Et souvent, et ça c'est aussi paradoxal pour nous actuellement, puisque les centres-villes en général sont très chers, ils vont se loger dans les centres-villes, où on a encore des bâtiments vétustes, des bâtiments anciens. Et donc on aura en Suisse, dans la plupart des grandes villes, des conditions très difficiles de vie dans les centres-villes, avec vraiment des taudis. En tout cas, ce qui va ressortir de ces conditions, eh bien, c'est qu'on aura une série de problèmes qui vont encore émerger à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, liés justement à ces mauvaises conditions de logement. Ces problèmes, ils sont d'ordre sanitaire, hein, vraiment. Il faut savoir que c'est le logement insalubre, etc., combiné avec des mauvais réseaux d'égouts et d'adduction d'eau usée et potable, vont encore causer des maladies, en fait. On a des épidémies à la fin du 19e siècle qui sévissent encore, notamment une épidémie de fièvre typhoïde en 1891, pour prendre qu'un exemple, à Lausanne, mais il y en a dans d'autres villes, en Europe et en Suisse. Et donc, les pouvoirs publics vont prendre en charge cette question du logement qui est articulée à la problématique des problèmes d'hygiène et effectuer différentes enquêtes. À Lausanne, on a une enquête sur les conditions de logement qui est réalisée en 1894, qui suit vraiment cette épidémie de fièvre typhoïde. Elle est menée par un architecte qui s'appelle Charles Mellet, puis elle s'appelle l'enquête Schnetzler, c'est le nom en fait de la personne qui a été rapporteur ensuite de l'enquête. Et elle va s'intéresser à 2448 maisons qui concernent 7618 ménages. Ça, c'est les chiffres exacts. Déjà, l'écart entre les deux donne déjà une idée du problème, du niveau de la densité de population dans certains quartiers. Et ça traduit tout à fait les conditions de vie qu'il y a dans ces logements vétustes au centre-ville qui préoccupent les autorités publiques. Ces conditions, elles sont liées à aussi une spéculation immobilière. C'est des terrains qui, alors même qu'ils sont loués à des personnes qui ont très peu de moyens, ont un prix en fait au mètre carré plus important que des logements bien plus luxueux souvent à l'extérieur, dont bénéficient les gens qui ont plus de moyens. Ces conditions de vie très difficiles, elles concernent l'accès aux sanitaires, des constructions qui sont inadaptées, qui sont mal aérées, qui sont trop humides, etc. Et donc il y a toute une série de problématiques qui vont se développer. Mais là, ce qu'il faut aussi redire pour situer, c'est que c'est des conditions que subissent en fait les populations en question.
À ces problèmes constatés dans les enquêtes sur les conditions de logement, l'hygiénisme va donc tenter de trouver des solutions. Pour mieux appréhender la question de l'hygiénisme et les conditions de logement au début du XXe siècle, nous rencontrons la spécialiste de la question en Suisse romande, Geneviève Heller. Elle est historienne, elle a mené de nombreuses enquêtes engagées dans les domaines de l'histoire sociale et sanitaire et a notamment publié en 1979 le livre « Propre en ordre », un ouvrage sur l'habitation et la vie domestique dans le canton de Vaud entre 1850 et 1930, paru aux éditions d'En Bas. Nous la retrouvons au musée devant deux photos de cuisine dans la salle « Enquête sur les intérieurs ».
Entre ces deux cuisines, il y a 20 ans d'écart. La plus ancienne a été photographiée en 1912. Elle est dans un logement traditionnel d'un immeuble bourgeois à Lausanne. L'autre date de 1932. Elle est située dans un logement neuf, que l'on pourrait même qualifier de logement modèle ou logement pionnier. Il s'agit d'un immeuble à loyer modéré de la cité Vieux-Seux à Genève. La plus ancienne, celle de 1912, est sombre, le mobilier est foncé. Les nombreux objets et ustensiles sont disposés à l'air libre sur des étagères et par conséquent, ils sont exposés à la poussière. On peut remarquer l'éclairage au gaz, un seul robinet à l'évier, une cuisinière à bois. Dans la cuisine moderne de 1932, tout est organisé de manière rationnelle. Les surfaces blanches sont lisses et faciles à nettoyer. L'éclairage est électrique, il y a l'eau chaude et l'eau froide sur l'évier et une cuisinière à gaz. Entre ces deux cuisines est passée la réforme hygiéniste. On parle aussi de mouvement hygiéniste. L'hygiénisme vise à promouvoir l'hygiène dans tous les secteurs de la vie publique et domestique. On cherche à prévenir ce qui est néfaste pour la santé et à valoriser ce qui la fortifie. Ce mouvement s'est développé dans le courant du 19e, mais au début du 20e siècle, il est une préoccupation omniprésente et il préconise des changements dans les habitudes et les comportements. Pour en revenir à la question du logement dont témoignent les photos d'enquête, c'est justement sous la pression d'une vaste croisade hygiénique que les conditions d'habitation ont dû évoluer entre la fin du 19e et la période de l'entre-deux-guerres, ou disons entre les années 1880 et 1930. Les bases du logement standard, telles que nous les connaissons aujourd'hui, ont été posées durant cette période.
Donc en fait, en arrière-fond de tout cela, il y a à la fois cette enquête hygiénique qui révèle cette situation au niveau des logements insalubres, mais il y a aussi les avancées scientifiques qui se font dans le même temps et où on peut mettre en corrélation finalement les maladies telles que le typhus, le choléra, qui sont en lien avec l'insalubrité.
Oui, absolument. La science vient renforcer des observations empiriques. Les découvertes faites en bactériologie dans les années 1880, notamment celles de Louis Pasteur, ont révélé le caractère microscopique des agents pathogènes. Le typhus et le choléra sont des maladies qui se propagent par les égouts. La tuberculose est une maladie qui se développe dans l'obscurité et l'humidité. Elle est véhiculée par le crachat. Les microbes sont invisibles, alors la poussière en est l'image concrète et devient suspecte. Une propreté rigoureuse et totale est une façon efficace de lutter contre l'infection. J'ajouterais que le développement des thérapies telles que l'hydrothérapie, l'aérothérapie et l'héliothérapie ont joué un rôle déterminant pour la revalorisation des éléments naturels. L'eau, l'air et le soleil sont recherchés pour leur pureté et leur valeur antiseptique. Mais on réalise très tôt qu'une campagne d'éducation de la population est indispensable. Il ne suffit pas de mettre un logement salubre à disposition des populations précaires ou, selon les termes de l'époque, des classes laborieuses. Encore faut-il que leurs habitants en fassent bon usage. Et de nouvelles habitudes doivent être inculquées correspondant aux exigences de l'hygiène scientifique et de la médecine. Les préceptes sont plus précis, plus exigeants et plus autoritaires.
Quand on vous entend parler d'éducation, et plus encore dans le contexte de l'espace domestique, de l'intimité, du logement finalement, on se dit que ces nouveaux préceptes devaient aussi impliquer forcément les femmes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le rôle que les femmes se sont vues attribuer durant cette période hygiénique ?
Oui, la femme est considérée comme la gardienne du foyer. C'est sur elle que repose la responsabilité de la salubrité de sa maison, qui est tellement attendue par les autorités et par les acteurs de l'époque. Des brochures de vulgarisation sont publiées, les manuels d'éducation domestique aussi, et l'école ménagère participe à l'éducation de la femme. Et une élite qui est consciente des enjeux inculque à la population une leçon nouvelle, la propreté est primordiale. L'intérieur du logement est peu à peu entièrement réformé, simplifié, dépouillé de ce qui pourrait gêner les opérations de nettoyage. La femme doit redoubler d'efforts. En un mot, elle doit prendre part à l'immense tâche d'édification d'une ère nouvelle marquée par l'hygiène scientifique.
Et du coup, il y a l'arrivée de l'eau.
Ah, effectivement, et c'est principalement dans l'entre-deux-guerres que s'est fait cette évolution. Les autorités des compagnies privées ont développé le réseau d'alimentation en eau sous pression. Elles ont veillé à ce que l'eau ne soit pas contaminée par les égouts qui pouvaient être défectueux. Et un nouvel espace est introduit dans les logements, la salle de bain. Là encore, les comportements de la population doivent évoluer. Il s'agit de prendre l'habitude de se laver entièrement le corps. Et la douche en pluie est à ce propos emblématique. C'est un héritage de l'hydrothérapie. Elle a été préconisée d'abord dans les lieux collectifs d'éducation de la population, les bains publics, les écoles, dans les casernes aussi, avant d'être introduite dans les logements. On disait « si tu tiens à ta peau, lave-la ». Et ces progrès matériels ont été une réelle avancée. C'est en particulier dans les logements dits sociaux, construits pour une population modeste, que l'on a défini les éléments indispensables d'un logement salubre, dont la salle de bain fait partie intégrante dans les années 1930. Et c'est notamment le cas des immeubles de la cité Vieux-Seux à Genève, dont on a commenté la cuisine modèle.
Donc tout cela a porté ses fruits à partir du moment où l'hygiène s'est installée au sein des villes, au sein des foyers, dans les campagnes, le choléra, etc. Tout cela a reculé.
Oui, alors dans le courant du XXe siècle, on n'a plus eu ces épidémies dramatiques de typhus et de choléra. Progressivement, on a pu juguler la tuberculose par d'autres moyens aussi que la propreté et que l'hygiène. Et surtout, la mortalité infantile a énormément diminué grâce aux préceptes que les femmes ont intériorisés, que les hôpitaux ont intériorisés, les sages-femmes ont intériorisés, d'avoir une hygiène extrêmement rigoureuse autour de la naissance. Et donc, il y a eu beaucoup moins de mortalité infantile.
la vie dans les logements romans au début du XXe siècle, ainsi que l'hygiénisme, mais aussi les photos d'enquête de Rice et de ses successeurs, c'est à vous maintenant d'aller mener l'enquête sur place dans l'espace Enquête sur les intérieurs pour découvrir tous ces éléments historiques dans l'exposition permanente Décors, chefs-d'œuvre des collections au Château de Prangin, Musée national suisse. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce podcast et à vous pour votre écoute. À bientôt dans le podcast du Château de Prangin, Musée national suisse.